Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. La Tour Eiffel sera rose ce soir, entièrement illuminée pour marquer le lancement d'Octobre Rose, la campagne mondiale annuelle d'information et de prévention du cancer du sein. Un exemple réussi de mobilisation autour d'une question touchant spécifiquement la santé des femmes. D'autres combats sont en revanche plus difficiles à mener. Par exemple à propos de l'endométriose, une maladie qui provoque notamment de fortes douleurs pendant les règles. Une pétition a été adressée aux défenseurs des droits pour que cette maladie soit mieux prise en charge et que celles qui en souffrent soient mieux considérées. Car c'est un symptôme dont souffriraient les femmes lorsqu'elles sont confrontées au milieu médical. Une moindre attention pour ce qu'on a appelé longtemps le sexe faible. Comme le notait l'écrivain et médecin Martin Winkler dans une chronique récente pour Libération, quand une femme consulte pour des douleurs chroniques diffuses, elle s'entend souvent dire « c'est dans la tête ». Alors de tels réflexes posent problème, ils peuvent par exemple retarder le diagnostic de certaines maladies, surtout si celles-ci sont considérées comme typiquement masculines, par exemple les maladies cardiovasculaires. Ils conduisent aussi ces réflexes à sous-représenter les femmes dans les tests cliniques pour les médicaments. Alors faut-il une autre médecine pour les femmes ? C'est la question que nous allons poser ce soir à trois invités. Catherine Vidal, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes neurobiologiste, co-responsable du groupe Genre et Recherche en Santé du comité d'éthique de l'INSERM. Et vous venez de publier en compagnie de Muriel Salle, Femmes et Santé, encore une affaire d'hommes. C'est une question que vous posez. C'est un livre qui est édité chez Belin dans la collection Égal à Égal. Pour discuter avec vous, Clara Debord, bonsoir.
Bonsoir.
Ancienne directrice d'hôpital, vous êtes spécialiste des droits des patients et des droits des femmes. On peut vous lire en allant sur votre blog En Jupe. Voilà, on a mis le lien sur notre site internet. Et puis troisième invité, Marie-M.C. Carazon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes médecin généraliste, gynécologue. Vous faites des consultations au mouvement français pour le planning familial, également en cabinet.
Oui, tout à fait, à Paris.
Alors la première question que je voudrais vous poser, je ne sais pas si c'est d'ailleurs à toutes les trois que je vais la poser, enfin on verra bien qui voudra y répondre, mais j'aimerais savoir si de votre point de vue il y a des maladies, en tout cas de ce que vous en savez, des maladies qui seraient en tout cas aujourd'hui négligées parce que typiquement féminines ou quasi exclusivement féminines et donc l'effort porté pour y répondre serait moindre. Catherine Vidal.
Bon, le sujet est vraiment très intéressant et d'actualité, effectivement. Mais ce qui est important de réaliser, c'est qu'il existe, comme dans d'autres domaines, des inégalités entre les femmes et les hommes dans la santé.
Oui, mais ça, c'est pas tout à fait pour l'instant ma question. C'est est-ce qu'il y a des maladies, en tout cas, dont on s'occuperait moins, dont la médecine s'occuperait moins, parce que ce seraient des maladies typiquement féminines. Je reviens à l'exemple que j'évoquais en ouverture de l'émission, l'endométriose, avec donc ce mouvement par un certain nombre de collectifs de femmes qui disent voilà, on ne prend pas suffisamment en cause cette maladie, on considère que voilà que ça en gros c'est des petits bobos alors que c'est une véritable maladie. Juste sur ce point-là, avant d'évoquer effectivement Catherine Vidal la question des inégalités.
C'est vrai que l'endométriose c'est une pathologie qui est finalement assez fréquente, qui correspond à des plaintes qui reviennent souvent en consultation de la part des femmes. C'est en général des règles douloureuses, des douleurs pendant les rapports, associées plus ou moins à un tableau digestif. Alors ça peut facilement, dans une consultation, passer inaperçu. Des règles douloureuses pour une femme, ça peut être considéré comme normal. Des douleurs pendant les rapports, on a vite fait de dire que la femme est contractée, que c'est effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, dans sa tête. De plus en plus, on essaye d'avancer là-dessus. Il y a pas mal d'hôpitaux qui ouvre des consultations spécifiques dédiées à l'endométriose en particulier. Il y a des campagnes d'information faites auprès des femmes et des médecins parce qu'on imagine que ça a été sous-diagnostiqué pendant longtemps. Effectivement, il y a probablement d'autres pathologies comme celle-là qui ne nous ont pas intéressés jusqu'ici et qui ont été laissées de côté. Et comme toute autre pathologie, elle nécessite d'être envisagée et d'être mise au cœur de nos consultations.
Alors justement, Catherine Vidal et Clara Debord, est-ce qu'on peut y voir à travers, par exemple, cette pathologie-là dont on parle, un exemple d'un traitement inégalitaire des femmes dans certains cas, Catherine Vidal ?
Oui, cette réalité de la non prise en compte suffisante de l'endométriose vient en fait d'il y a longtemps. Parce que dans les traditions du développement de la médecine, les femmes ont été considérées comme le sexe faible, C'est au XVIIIe siècle que la notion de nature féminine a été élaborée, les femmes étant censées être faibles physiquement, mais aussi mentalement, incapables d'assumer des responsabilités dans le domaine public. Et cette faiblesse des femmes a fait que la médecine s'est exercée essentiellement chez les hommes. Et en conséquence, dans la réalité des essais cliniques qui ont été faits depuis maintenant le début des années 2000, on a réalisé qu'il y avait une sous-représentation des femmes dans les essais cliniques quand il s'agissait de tester des nouvelles molécules, des nouveaux médicaments. Alors que, par exemple, si on prend le cas des maladies cardiovasculaires, ces maladies représentent la première cause de mortalité chez les femmes. Le cancer du sein, c'est le numéro 10. Or, dans les essais cliniques, jusqu'à récemment, il y avait très peu de femmes qui étaient convoquées, qui faisaient partie des cohortes.
Donc des stéréotypes anciens qui continuent aujourd'hui d'être toujours assez actifs, on va dire, justement, dans l'appréciation qui peut être faite des maladies dont souffrent les femmes, Clara Debord.
Oui, parce qu'il y a non seulement des maladies, évidemment, quand on parle de maladies de l'ovaire, forcément ça touche que les femmes, mais il y a aussi des symptomatologies qui peuvent être différentes chez les femmes de chez les hommes, et si ce sont seulement celles des hommes qui sont connues et enseignées et transmises, naturellement, on va moins bien les repérer quand celles-ci apparaissent chez les femmes. Donc c'est pas tant uniquement le fait que la femme, à mon sens, soit considérée depuis si longtemps comme le sexe faible, mais aussi par le fait que le corps de la femme est considéré comme... le corps de l'homme est considéré comme la norme.
Absolument.
Et que celui de la femme est considéré comme différent de la norme. D'ailleurs, on parle souvent des différences. Même votre émission se questionne sur faut-il une médecine différente pour les femmes. Mais pardon, on n'est pas différent des hommes, c'est juste qu'on existe. Voilà, il n'y a pas... D'un côté, la norme, c'est le corps des hommes, et on demanderait à ce que nos différences soient prises en compte. Non, on demande que simplement l'humanité tout entière soit prise en compte par la médecine et par tout un tas d'autres disciplines, naturellement.
Mais l'humanité prise en compte, ça veut dire quoi? Ça veut dire de manière indifférente, de manière totalement indifférenciée? Ou bien est-ce qu'il n'y a pas justement certaines... Alors, il y a certaines maladies qui, évidemment, le cancer du sein, même si ce n'est pas exclusivement une maladie, crois, féminine, mais enfin... très majoritairement une maladie féminine, mais pour d'autres pathologies, par exemple comme les maladies cardiovasculaires ou comme les AVC, est-ce qu'il n'y a pas peut-être la nécessité de traiter différemment les femmes des hommes parce que les réactions ne sont pas exactement les mêmes?
Oui, c'est la raison pour laquelle il est effectivement très important qu'il y ait suffisamment de femmes dans les essais cliniques et qu'on ne peut pas simplement considérer, en simplifiant, que dès lors que la femme a des hormones qui évoluent tout au long du mois, finalement, ça va perturber les résultats des analyses de la recherche, si vous voulez, en simplifiant, et que donc, il vaut mieux exclure ces variations, et donc exclure les femmes des essais cliniques. Parce que le fait que l'on nous dise, oui, mais une femme, ça peut tomber enceinte, et donc il y a un problème éthique à lui faire tester des médicaments, certes, mais enfin, on n'en est plus quand même au moment où on pouvait tomber enceinte comme ça, sans prévenir d'un jour à l'autre tout au long de notre vie. Donc ce sont, me semble-t-il, des prétextes un peu trop faciles pour exclure les femmes des recherches cliniques et ne considérer une fois de plus que le corps de l'homme comme le corps sur lequel procéder à des recherches.
Mariam Sikarazon.
Un des exemples type de ce dont parlait Madame Debord, c'est les trithérapies et tous les traitements anti-VIH. Dans les études qui ont été faites sur ce type de thérapie, on a exclusivement quasiment des effectifs masculins. Les patientes qui sont elles aussi parfois atteintes du VIH sont évidemment traitées par les mêmes médicaments et parfois ont des effets indésirables non listés dans les études. Est-ce que pour autant le médecin peut leur répondre que non, l'effet indésirable n'est pas en rapport avec le médicament puisqu'il ne fait pas partie de ce qui a été décrit au cours des études? Non, parce que le médicament, il a été testé sur des effectifs essentiellement masculins et on ne peut pas éliminer la possibilité qu'il y ait des effets qui n'apparaissent que chez les femmes. Donc c'est un vrai problème. Nous, on a des patientes séropositives qui viennent nous faire ce retour-là, à savoir que si elles n'ont pas un médecin qui est vraiment à leur écoute et qui peut entendre leur plainte, même si effectivement c'est un effet indésirable non répertorié ou un symptôme non répertorié, elle se retrouve complètement démunie avec une information médicale dont personne ne fait rien et un inconfort au quotidien, et ça c'est pas possible.
Donc pour se donner les moyens de pouvoir répondre à la spécificité de certaines réactions qui seraient spécifiques aux femmes, il faudrait d'abord donc commencer, Catherine Vidal, par les inclure davantage dans les tests cliniques pour justement pouvoir juger et jauger leur réaction face à certains traitements ou certains médicaments.
Oui, bien sûr. Enfin, ça paraît tellement évident qu'il faudrait tester les médicaments sur des échantillons de patientes ou de sujets témoins où il y a autant d'hommes que de femmes. Bon, ce qui est intéressant, c'est de voir l'historique de la chose. Pourquoi est-ce que on ne s'est pas plutôt insurgé du fait que il y avait trop peu de femmes dans les essais cliniques? En fait, au départ, ce sont les mouvements féministes américains dans les années 80 qui se sont penchés sur ces questions de discrimination des femmes dans les essais cliniques. Les études de genre sur la santé étaient à l'époque très focalisées sur la santé sexuelle et reproductive, hein, pour le droit à l'avortement, à la contraception. Mais les réflexions se sont élargies à d'autres domaines, et en particulier dans le domaine cardiovasculaire. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est là qu'on s'est rendu compte que l'infarctus du myocarde était sous-diagnostiqué chez les femmes, parce que c'était une maladie considérée, selon les représentations sociales du masculin, comme une maladie spécifique des hommes stressés au travail. Or, ces mouvements féministes ont fouillé un petit peu le sujet. Elles se sont rendues compte qu'en l'occurrence, quand on regarde les chiffres, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité chez les femmes. Et elles ont mis en évidence cette contradiction énorme qui est que dans la plupart des essais cliniques, il n'y avait pas de femmes, alors que c'est vraiment la maladie qui les atteint le plus.
Oui, mais est-ce que c'est pas un petit peu en train de changer ça quand même aujourd'hui? J'ai vu par exemple qu'en 2016, donc c'est très récent, le Parlement européen avait évoqué cette nécessité d'inclure beaucoup plus de femmes dans les essais cliniques. Et puis sur Internet, on peut assez facilement trouver un clip. Alors ça n'est qu'un clip, mais enfin c'est toujours le début, un clip de prévention qui a été fait par la Fédération française de cardiologie. C'est un spot qui est signé par la réalisatrice Mai Wen, où on voit une jeune femme et un homme d'âge mûr, disons assez bien portant, qui sont en train de danser dans une discothèque. Et puis on entend un message comme quoi chaque jour 400 personnes souffrent de maladies et meurent de maladies cardiovasculaires dans plus de la moitié des cas. Et là, on voit, contre toute attente, la jeune femme qui s'effondre et ça n'est pas l'homme. Est-ce que aujourd'hui, vous considérez, Clara Debord, qu'il y a eu peut-être quand même un début de prise de conscience de la nécessité justement de penser aussi, de penser peut-être davantage aux femmes en matière de santé?
Ce cas-là est un cas qui est typique et qui maintenant est connu. C'est d'ailleurs souvent le seul exemple qu'on est amené à pouvoir présenter d'un début effectivement de prise de conscience de la symptomatologie différente chez les femmes, de chez les hommes, et de la nécessité d'être suffisamment effectivement ouvert pour bien repérer que la femme va peut-être pas avoir mal dans le bras comme l'homme, par exemple.
Bon, c'est pas anecdotique non plus, parce que ça concerne énormément justement de cas.
C'est pas anecdotique, mais ça n'est que le début, et finalement l'immensité des choses à découvrir et ne nous est pas encore connue aujourd'hui. Finalement, ce qu'on est en train de discuter, c'est on en a assez que le standard sur lequel sont faits les essais soit un standard masculin. On pourrait aussi, parce qu'évidemment, le sujet est infini, l'étendre au sujet des personnes, évidemment, par exemple, en surpoids. Hein, on a eu aussi à connaître, il y a quelques mois, une polémique sur le fait que les pilules du lendemain pouvaient ne pas être aussi efficaces chez les femmes en surpoids, mm-hmm, par rapport à des femmes en poids, entre guillemets, normales. On tire le fil de la pelote et finalement, on va voir arriver les questions autour de la médecine personnalisée.
Oui, parce qu'est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, en ayant cette approche de gommer d'autres différences. Par exemple, quand on regarde sur les notices des médicaments, les effets indésirables. Alors effectivement, on pourrait se dire, il peut y avoir des effets indésirables si on est un homme, si on est une femme. Mais si on est un homme de 60 ans et si on est un homme de 20 ans, peut-être que les effets indésirables vont pas être les mêmes. Et puis, en fonction du parcours, peut-être aussi en fonction du travail que l'on fait, on voit bien à quel point c'est compliqué, ça, non, Marie-Cam Sika a raison.
Oui, évidemment. Après, c'est vraiment toute une question aussi autour de l'écoute en consultation des médecins, de faire de chaque consultation, y compris celle des femmes, une consultation où on va essayer de faire de la prévention autour de la santé. Les femmes, on sait qu'elles sont amenées beaucoup à consulter, notamment pour la contraception et leur suivi gynécologique. Voilà, ça peut être l'occasion d'en faire une vraie consultation de dépistage général, pourquoi pas. Pourquoi effectivement il y a des pathologies qui sont sous-estimées chez la femme alors que finalement elle consulte beaucoup. Elle consulte beaucoup, mais parfois la priorité est donnée à la maîtrise de la fertilité, à des questions qui sont spécifiquement féminines et pas à d'autres domaines de santé qui pourtant les concernent également.
Elle consulte beaucoup, elle consulte plus que les hommes. J'ai vu que sur 10 patients, il y a 7 femmes. Donc on pourrait imaginer justement que, étant donné cette proportion-là, les femmes sont en meilleure santé ou en tout cas les femmes sont mieux soignées, ce qui n'est pas peut-être forcément le
exactement.
Cas. Clara Debord.
Où elles font davantage attention parce qu'elles ont intégré ce stéréotype-là selon lequel elles doivent non seulement faire attention à elles, à leur corps, aussi au corps des enfants, et elles sont là aussi très souvent celles qui amènent les enfants chez le pédiatre. Mais là, pour répondre à votre question précédente, les femmes ne sont pas une minorité finalement. Donc c'est un peu ça la différence avec les autres questions qui se posent néanmoins et qui sont très sérieuses. Je parlais des personnes en surpoids, mais on peut aussi parler de personnes qui par exemple ont des maladies génétiques dès l'instant qu'ils viennent, par exemple, de certains pays d'Afrique, ils peuvent avoir davantage tel ou tel type de maladie. Bon, mais là, on ne parle pas de minorité pour lesquelles il faudrait en effet approfondir certains sujets. On parle vraiment de la moitié de la population et donc il n'est pas question que cette moitié ait à se battre pour être reconnue comme telle.
Cela dit, s'agissant des stéréotypes de genre, dans votre livre, Catherine Vidal, vous évoquez aussi, alors même s'ils sont moins nombreux, hein, bien entendu, mais ceux dont peuvent souffrir les hommes sur d'autres maladies, comme par exemple l'ostéoporose, dont on considère, donc c'est la maladie des os, enfin, pas médecin, mais enfin, la fragilité des os, hein, c'est bien
tout
ça.
Tout à fait.
Qui est, alors, c'est peut-être d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, parce que je suis un homme, je connais moins bien cette maladie, qui est considérée comme une maladie de femme, mais qui touche aussi beaucoup d'hommes, Catherine Vidal.
Oui, on est à nouveau dans cette question des représentations sociales du féminin et du masculin qui va avoir un impact sur les pratiques médicales, sur la façon dont on va écouter les symptômes et dont on va les prendre en charge. Bon, l'ostéoporose est de façon, maintenant, il y a de nombreuses campagnes qui sur cette question-là. C'est l'exemple en miroir des problèmes cardiovasculaires chez les femmes. L'ostéoporose est de façon dramatique sous-diagnostiquée chez les hommes. Or, un tiers des fractures de la hanche chez les hommes sont dues à l'ostéoporose et les risques de faire une deuxième fracture sont encore plus importants que chez les femmes. Or, très peu d'hommes se voient prescrire des médicaments pour la prévention de l'ostéoporose. Il y a un travail de formation et d'éducation auprès justement du personnel soignant, mais enfin très très important à faire, mais il faut aussi faire un travail d'information auprès des patients. Il faut que les femmes apprennent à faire vérifier leur cœur et il faut que les hommes apprennent à faire vérifier leur squelette.
Alors justement, sur cette question de la formation, elle est extrêmement importante. Mariam Sika a raison, vous qui êtes médecin, qui consultez donc en cabinet, et je le rappelle, et au mouvement pour le planning familial. Est-ce que vous, dans votre formation de médecin, vous avez été, disons, alerté sur cette question de la prise en compte du sexe des malades, sur la différence qu'il peut y avoir, sur la nécessité aussi qu'il peut y avoir à écouter peut-être de manière différenciée selon que le patient est un homme ou une femme, ou bien on vous apprend que le patient est un être, comment dire, asexué et qu'on le traite de la même manière d'où qu'il vienne, disons.
C'est plutôt ça qui est enseigné à la fac encore maintenant, je crois. La médecine, effectivement, est asexuée en termes d'enseignement, en tout cas. Après, effectivement, au quotidien, en consultation, on se rend tous compte qu'il y a des problématiques qui sont différentes. Mais après, au-delà des pathologies liées à l'appareil reproducteur et à des organes spécifiquement masculins ou féminins, pour le reste des maladies, il n'y a effectivement pas du tout de différence faite, ni dans la symptomatologie, ni dans la prise en charge, entre les hommes et les femmes. La question aussi qui arrive maintenant beaucoup dans mon exercice quotidien, c'est la question du genre, qui était une question qui était complètement absente de la médecine jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Moi, j'ai un certain nombre de patients pour qui c'est une problématique essentielle dans leur quotidien et qui ont à cœur qu'on leur pose cette question-là, parce que ça influe sur leur prise en charge, sur leur suivi, et que ça fait partie des données à connaître sur un patient, indépendamment de son sexe. Donc ça encore, c'est une autre problématique qui est très complexe, mais qui est vraiment importante, ne serait-ce que de la pointer du doigt, en fait, pour qu'on ait à l'idée que ça aussi, ça va rentrer en ligne de compte dans la prise en charge des patients.
Clara Debord.
Sans compter la question des violences dans le couple, qui là aussi sont un fléau qui touche tout particulièrement les femmes. Un sujet avec des risques de mort véritables. C'est un fléau dans notre pays et ça ne se réduit pas. Là aussi, ça demande des savoir-faire particuliers de la part des médecins qui sont généralement le premier professionnel auquel la femme essaye ou finit par tenter de se livrer. Et là aussi, ça veut dire qu'il faut poser systématiquement la question lors de la première consultation et même peut-être des suivantes. Avez-vous dans votre vie été victime de violences, notamment de violences sexuelles mais pas seulement, dans l'enfance, au travail, dans le couple? Et c'est une question qui n'est pour certains médecins pas encore facile à poser parce qu'ils n'ont pas été forcément formés à cela. C'est-à-dire que ni le patient n'est un être neutre et standard, ni le médecin en vérité. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça génère chez le médecin cette rencontre avec ce patient ou cette patiente? Qu'est-ce que ça lui renvoie? C'est d'ailleurs ce que disent souvent les personnes qui militent dans les associations, je reprends cet exemple parce qu'il me semble intéressant, de lutte contre la grossophobie ou de lutte contre la LGBT-phobie. C'est finalement le sentiment que, et des patients LGBT le disaient il n'y a pas très longtemps, qu'ils hésitent à aller chez le médecin tellement ils craignent finalement les réactions de ce médecin qui n'est pas préparé, formé à prendre en compte lui ce que ça lui provoque, ou elle, ça peut être une dame bien sûr, ce que cette rencontre génère chez lui ou chez elle, et quels sont les outils qui lui ont été transmis par les études de médecine ou par la formation continue pour faire face à cette rencontre et être utile pour ce patient à ce moment-là de sa vie. La médecine, naturellement, et le soin en général, ne saurait être une question simplement technique.
Alors, je rappelle la question que nous posons ce soir. Faut-il une autre médecine pour les femmes? Nous le faisons en compagnie de Clara Debord, ancienne directrice d'hôpital, Mariam Sika Razon, qui est médecin au Mouvement français pour le planning familial, et Catherine Vidal, qui est neurobiologiste et qui publie aux éditions Belin « Femmes et santé, encore une affaire d'hommes ». Catherine Vidal, donc, dans votre livre, vous examinez, on va dire, cette question essentiellement à travers la problématique du genre. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir aussi un risque, en l'examinant peut-être trop exclusivement à travers ce prisme-là, de minimiser ce que sont les différences biologiques qui peuvent aussi expliquer que certaines maladies apparaissent davantage chez les femmes que chez les hommes, ou inversement, et que certains traitements soient mieux adaptés aujourd'hui aux hommes ou qu'aux femmes, et inversement là également. C'est-à-dire quelle place vous laissez aux différences biologiques dans l'approche qui est la vôtre?
Il ne faut pas confondre les notions de différence et d'inégalité dans la santé. Qu'il existe des différences dans le domaine de la santé entre les femmes et les hommes, c'est évident, puisque les femmes et les hommes ont des différences anatomiques, physiologiques, qui peuvent conduire à des pathologies différentes. Si on s'intéresse maintenant à d'autres...
Qui peuvent aussi conduire peut-être à des réactions sur une même différente lorsque c'est une même pathologie. Je ne sais pas, je prends totalement au hasard, mais justement sur les maladies cardiovasculaires, on peut imaginer que certaines, selon qu'on est un homme ou une femme, on ne va pas développer la maladie de manière identique. Et donc le traitement va devoir être différencié justement.
Oui, mais ce qui est important de prendre en compte, c'est que les différences purement biologiques sont rarement uniquement biologiques, c'est-à-dire il y a une interaction extrêmement subtile, je dirais, entre le biologique, mais des facteurs culturels, sociaux, économiques, qui vont faire que la façon dont on va exprimer des symptômes, la façon dont ils vont être pris en charge, la façon dont on va chercher une aide et accéder aux soins, va être influencée de façon extrêmement importante, et cela va entraîner des inégalités de santé dans l'accès aux soins et la prise en charge. Et il y a un facteur supplémentaire qui est celui du statut économique. On sait que les femmes sont les premières victimes de la précarité. 70% des travailleurs pauvres sont des femmes. Les femmes sont souvent dans des situations familiales, de rupture conjugale, de monoparentalité. Et ces difficultés économiques vont faire que ces femmes ne vont pas consulter, qu'elles vont renoncer aux soins parce que elles sont dans un contexte où elles ne peuvent pas financièrement se le permettre. Donc, vous voyez, il faut vraiment intégrer la notion de différence biologique dans un contexte plus large, qui est un contexte social, culturel et aussi économique. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir, de façon efficace, vraiment construire une médecine plus égalitaire. On ne veut pas simplement se contenter de dire il y a d'un côté des mâles et il y a d'un autre côté des femelles.
Est-ce que vous êtes d'accord avec cette approche-là, Clara Debord et Mariam Sicarazon? Clara Debord.
Oui, en somme, on est en train de tourner autour du fait qu'il faudrait que la médecine ne soit pas qu'une médecine de nature biologique et qu'elle se réconcilie avec ce qu'elle était dans le passé, à savoir se réconcilier avec les sciences humaines. L'anthropologie, la sociologie, la philosophie même, sont des disciplines qui devraient être essentielles, néanmoins quand même au cœur du sujet de la formation et de l'évaluation même, je vais jusque là, des médecins, en tout cas des médecins de demain, ce d'autant plus que les médecins technicistes finalement vont eux-mêmes être très rapidement dépassés, des médecins qui finalement, pour simplifier, ont été construits dans l'idée qu'il fallait qu'ils soient surtout un puits de science et un puits de connaissance. Finalement, les technologies d'aujourd'hui vont, entre les systèmes d'information, l'intelligence artificielle et les robots chirurgicaux, et déjà aujourd'hui, l'intelligence artificielle commence déjà à pouvoir interpréter des radios mieux qu'un œil humain, et un cerveau humain surtout. Finalement, qu'est-ce qui va rester aux soignants en général? C'est l'éthique, c'est la démarche, c'est l'écoute, c'est tout ce que ne pourra jamais, je crois, en tout cas j'espère, faire un robot, un ordinateur. Or aujourd'hui, on continue en 2017 à sélectionner les médecins et à les classer sur des apprentissages de type de connaissances, hein, d'apprentissages livresques qui n'ont plus aucun sens et qui sont totalement déconnectés de tout ce que par ailleurs les sciences de l'éducation, la philosophie, la sociologie nous ont appris, mais qui justement, ne pénètre pas les facultés de médecine.
J'évoquais au début de l'émission cette chronique, cette tribune qu'avait signée Martin Vinclair, donc écrivain et médecin dans Libération il y a quelques mois de cela, c'était au mois de mars. Il avait notamment cette phrase à propos des médecins. On leur a appris à traiter, entre guillemets, les hommes, entre parenthèses plutôt. On ne leur a jamais enseigné à soigner les femmes. Mariam Sicarazon, ça vous semble un bon résumé peut-être?
C'est tout à fait vrai. Après, c'est vrai que notamment dans le cursus de médecine générale, il y a de plus en plus d'axes sociaux, environnementaux, les questions effectivement des violences faites aux femmes, de l'orientation sexuelle des patients, de la précarité, tout ça maintenant est intégré à la formation, en tout cas en médecine générale. Effectivement, je pense moins en spécialité, mais en médecine générale, parce qu'on est effectivement en première ligne pour dépister tous ces risques-là, pour être à l'écoute des patients, parce que c'est souvent des thèmes que les patients ont du mal à amener en consultation. C'est assez difficile de se livrer sur ces sujets-là. Donc si on ne pose pas la question, nous, en consultation, on n'aura pas ces informations. Donc c'est effectivement très important d'être dans le soin, donc dans l'écoute, et d'aller chercher toutes ces fragilités qui vont être nécessaires à une bonne prise en charge et à une bonne santé.
En fait, on touche les limites de la médecine d'organes, c'est-à-dire quand on parle des spécialités. Alors, la médecine générale est une spécialité, tout comme
maintenant,
la pédiatrie,
oui.
Tout comme la psychiatrie, sont des spécialités, on va dire, un peu globales, mais c'est finalement l'exception au niveau du nombre de spécialités, pas au niveau de l'effectif de médecins. Quand on est ophtalmologiste, évidemment, on s'intéresse à la vue et aux yeux. Quand on est pneumologue, on s'intéresse à l'organe du poumon. Évoquer avec un pneumologue le fait qu'il y aurait des sujets à aborder qui seraient différents selon qu'on est une femme et un homme, enfin, lui au départ a quand même été formé pour bien connaître l'organe du poumon, quoi, si vous voulez. Et on sent bien que le fait, cette médecine occidentale de la deuxième moitié du XXe siècle, qui a complètement découpé et qui a permis de gagner des années de vie, hein, mais qui, en passant par un découpage, si vous voulez, des patients en organes, en images, en résultats biologiques, finalement éloigne le médecin de ce patient dans sa singularité et dans la façon dont lui ou elle vit ce qui lui arrive.
Donc si je vous suis bien, si on promeut une approche peut-être plus sensible de la santé, de la médecine à l'égard des femmes, finalement ça profite aussi à l'ensemble de ceux qui sont amenés à être des patients, et les femmes et les hommes, Catherine Vidal.
Oui, c'est bien évident que mieux on connaît les différences entre les femmes et les hommes dans le domaine de la santé, mieux on va pouvoir lutter contre les inégalités. C'est ça, cette nuance qui est importante à apporter. S'intéresser à la santé des femmes, ça va être également utile pour la santé des hommes. Bon, et il faut aussi prendre en compte cette notion donc de représentation sociale que représente justement le masculin et le féminin, qui va jouer, on l'a dit, non seulement dans les pratiques médicales, mais également dans l'expression des symptômes. Si on prend l'exemple de la dépression. La dépression, classiquement, on dit c'est une maladie de femme, il y a deux fois plus de femmes déprimées que les hommes. Bon, la réalité est bien plus compliquée. Si on considère les symptômes classiques de la dépression, à savoir les pleurs, la fatigue, la tristesse, l'anxiété, ce sont des symptômes qui sont fréquemment exprimés par les femmes. Mais il existe aussi...
Fréquemment, parce que plus facilement exprimés par les femmes que par les hommes, c'est-à-dire quoi? Alors de la même manière que alors, pour les femmes, c'est le sexe faible, les hommes, c'est le sexe fort, donc quand on est un homme, on ne pleure pas, on ne se plaint pas, c'est ça?
Absolument. Mais ça, c'est des processus, la plupart du temps, totalement inconscients. Et... si on considère des symptômes alternatifs de la dépression, qui sont en fait ceux-là plus souvent exprimés chez les hommes, c'est-à-dire conduite à risque, consommation d'alcool, hyperactivité, agressivité, si dans des études épidémiologiques comme maintenant on peut en disposer, si on associe les deux types de symptômes, on s'aperçoit qu'en fait il y a autant d'hommes que de femmes déprimés. Et donc, vous voyez, c'est cette notion-là qui prend en compte la notion d'expression des symptômes. Bon, il faut former aussi les médecins à avoir une écoute un petit peu attentive en se disant, est-ce que la façon d'exprimer les symptômes de mon patient ou de ma patiente n'est pas quelque chose qui est très conforme aux normes classiques, mais... le médecin doit pouvoir aider aussi la personne en difficulté pour justement dépasser cette parole qui parfois va être biaisée à cause des schémas classiques du masculin et du féminin.
C'est ça, c'est pas simplement une qualité d'écoute où on serait en train de dire que les médecins écoutent mal, hein, ou écoutent mal à une partie de la population. Il s'agit que ceci ait appris la question des biais de genre. Et tant qu'ils l'ont pas appris, c'est une connaissance comme une autre qui devrait s'enseigner en études de médecine, et sur lesquelles les étudiants devraient être donc sélectionnés, puis évalués, dès l'instant qu'ils ne connaissent pas l'existence de biais de genre.
À votre connaissance, ça n'est pas du tout fait, ou
ça commence fait par, un tout petit certains... peu en médecine générale. Mais il n'y a qu'à voir la maquette de l'internat qui est encore sortie récemment. Oui. C'est dramatique. La maquette définie par décret, elle définit en gros les organes qu'il faut connaître. Quoi, je simplifie, mais ce n'est pas beaucoup plus sensible en vérité. La question des violences, par exemple sexuelles, ou des violences même en général, n'intervient que dans la maquette de la médecine légale. C'est embêtant. C'est embêtant. Il faut être interne en médecine légale pour bénéficier de façon systématique, et pas simplement parce qu'un enseignant le souhaite et s'investit particulièrement dans ce domaine, ce qui est heureusement toujours possible. Mais il y a que les médecins légistes qui apprennent le sujet des violences, et notamment des violences sexuelles. C'est ennuyeux.
Après, c'est vrai que je suis aussi enseignante à la faculté de médecine Paris 5, et on a de plus en plus de thèses d'étudiants sur ces sujets-là, sur la... comment poser la question, quel est le ressenti des médecins quand ils posent cette question, quel est le ressenti des patients. Parce qu'on voit bien que c'est une problématique qu'on maîtrise pas du tout, qui intéresse tout le monde, parce qu'on voit bien que quand on la pose, cette question-là, la consultation change complètement et la prise en charge change complètement. Donc on sent bien qu'il y a un nœud là dans la prise en charge du patient et dans le soin qu'on peut lui apporter. Néanmoins, on n'est pas formé à savoir quoi en faire, comment gérer tout ce qu'il va y avoir comme réaction, aussi bien de la part du patient que de notre propre point de vue, parce que c'est pas une question facile à poser.
Vous qui êtes médecin au planning familial, on a beaucoup parlé ces derniers jours d'une moindre utilisation de la pilule comme contraceptif. On va bientôt célébrer, si ce n'est en ce moment, le 50e anniversaire des lois Neuwirth. Est-ce qu'on peut y voir, justement, peut-être dans cette désaffection pour la pilule, l'effet, la conséquence d'un moindre intérêt ou en tout cas d'une moindre considération pour ce qu'ont peut-être pu exprimer les femmes à propos des effets que peut avoir la prise de la pilule, c'est-à-dire en considérant c'est bien, vous avez cet outil-là de contraception qui fonctionne très bien, ne venez pas vous plaindre derrière. Est-ce que ça pourrait expliquer la désaffection, à votre avis?
Oui, ça peut en partie expliquer ça. C'est vrai qu'il y a une grosse polémique autour de la pilule. Il y a beaucoup d'inquiétudes de la part des patientes. Il y a eu beaucoup de sujets qui sont sortis, beaucoup de livres qui ont terni l'image de la pilule. Après, nous, au planning familial, on insiste vraiment sur l'importance du choix de la femme, de sa contraception. Donc là aussi, en fait, il faut revenir à un autre débat. C'est pas la pilule ou pas la pilule, c'est le choix de la contraception par la femme. C'est-à-dire qu'on se dit que pendant longtemps, la femme est allée voir son gynécologue ou son médecin en lui demandant une contraception et que ce médecin, après avoir regardé son dossier, a décidé ce qui était le mieux pour elle. Parce que c'est comme ça qu'on nous enseignait de faire avant. Encore une fois, il n'y a pas du tout d'arrière-pensée de dire les médecins sont méchants ou les médecins se croient mieux que les patientes. C'est pas du tout ça. C'est que la médecine était enseignée de cette façon-là, c'est-à-dire que le médecin savait mieux que la patiente ce qu'il lui fallait et que donc c'était à lui de choisir. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui en consultation nous disent « Mais vous prendriez quoi à ma place ?» Et moi, je leur dis « Écoutez, moi, je ne peux pas vous répondre. Je peux vous dire tous les avantages et les inconvénients des moyens qui existent. Je peux vous dire si peuvent ou pas être contre-indiqués chez vous. Et après, c'est votre choix, au vu de votre vie. Et puis d'ailleurs, votre choix, ça sera celui-là aujourd'hui. Et puis peut-être que dans 10 ans, ça sera un autre. Donc c'est vraiment la relation du soin qui change et toute la consultation qui prend un autre visage. De laisser vraiment la main au patient, de le rendre acteur dans tout ça. Et effectivement, c'est vrai que si on propose aux femmes plein de moyens de contraception et qu'elles doivent choisir, elles choisiront pas toute la pilule.
Enfin, laisser la main au patient jusqu'à une certaine limite. Peut-être on voit beaucoup se développer le recours aux médecines alternatives. Alors, on peut pas toutes les mettre dans le même panier, mais est-ce qu'il peut pas aussi y avoir un risque, c'est-à-dire d'une défiance qui serait tellement forte à l'égard de la médecine classique qu'on finirait par s'en éloigner et à mal se soigner ou à ne plus se soigner parce que justement on considère que ce que propose le milieu médical n'est pas adapté à son propre cas, Clara Debord?
Oui, alors c'est vrai qu'il y a un risque d'effet balancier, si vous voulez. On est allé tellement dans un sens qu'on risquerait d'aller trop loin dans l'autre sens. Maintenant, je crois qu'il faut quand même partir du principe, je vais pas dire hélas, mais que les patients sont intelligents et que passer certains moments d'agitation, ils vont prendre les décisions qui leur conviennent le mieux. Je crois que là, ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il y a ce recours à ces médecines alternatives. C'est certainement pas seulement parce que les gens regardent les réseaux sociaux. C'est peut-être aussi parce que cet homéopathe, ce magnétiseur, et je ne les mets pas forcément dans le même panier encore que personnellement, eh bien, ils ont une écoute qui serait effectivement un peu différente.
Un recours qui, en plus, apparemment, est plutôt le fait de femmes, enfin majoritairement le fait de femmes, d'après ce que j'ai pu lire, donc ce qui rejoint aussi...
Est-ce qu'on doit forcément opposer les médecines parallèles et la médecine classique? Moi, je ne crois pas. J'ai souvent des patientes qui associent les deux. Je crois que l'important, c'est qu'on soit là pour entendre qu'elles n'ont pas envie d'un traitement lourd, médicamenteux, si ce n'est pas une absolue nécessité. Et il y a plein d'alternatives qui sont très acceptables dans beaucoup de pathologies. Néanmoins, c'est bien justement qu'on laisse la porte ouverte du cabinet en disant « Ok, les médecines alternatives, pourquoi pas ?» Et puis nous, on est là pour être un garde-fou. S'il y a une pathologie grave qui nécessite un traitement adapté, on sera là pour dire « Bon, ok, mais là, les médecines alternatives, ça ne suffira pas. »
Catherine Vidal, quand est-ce que votre livre sera enseigné dans les facs de médecine? Il sera en tout cas mis au programme.
Mais dès demain.
Non, les réactions que vous pouvez avoir, alors il est sorti il y a quoi?
Le 13 septembre, oui.
Donc il y a moins de 15 jours.
Donc il est co-écrit avec Muriel Salles, qui est historienne de la médecine et qui travaille à l'Université de Lyon.
Et est-ce que vous avez déjà une petite idée de la réception de cet ouvrage, justement, dans le milieu médical? Ou est-ce que vous avez peut-être justement de certaines résistances, disons, par rapport à l'approche quand même assez spécifique qui est la vôtre?
C'est le début, hein, mais on a déjà eu une interview par le quotidien du médecin. Je crois que le livre a un bel avenir parce que... correspond quelque part à une nécessité de formation et comme je le disais, de formation à la fois des soignants et à la fois des patients. Et tout ça, c'est pour le bénéfice de la santé et des femmes et des hommes.
À la fois des soignants et des patients, ça va faire plaisir à votre éditeur Belin, parce que ça veut dire que le public, le lectorat potentiel est assez large. Merci beaucoup en tout cas à vous trois, Catherine Vidal, Clara Debord, Mariam Sika, Razon, d'avoir participé à cette discussion que vous pouvez retrouver sur notre site internet franceculture.fr. Merci à l'équipe du Grain, Fanny Richet, Antoine Tricot, Virginie Leduo, Antoine Dulster, Eva Pellerin, émission réalisée par Véronique Villa, avec à la prise de son ce soir, Jean Frédérix.